Marcher à son rythme, afin d'être ouvert à toutes les impressions et d'être disponible au paysage traversé et dont on fait partie à chaque instant. Un peu à la façon du cours d'eau qui, lui aussi, avance. En outre, ce n'est que dans le silence sans mots que procure la marche solitaire que le randonneur peut s'abandonner à cette ivresse des pas, qui commence par une sorte d'éblouissement et de torpeur de l'esprit pour se terminer par une paix qui dépasse la raison. Voyage avec un âne dans les Cévennes, Robert Louis Stevenson.
Le GR10 à Traversons, un balado de Patrice Jean. 6 jours de marche sur le sentier de grande randonnée numéro 10. 6 jours de paysage à couper le souffle. 6 jours de sueur sous le soleil. 6 jours de rencontres pas banales. Je vous propose de mettre vos pas dans les miens et de partir randonner ensemble. Demain, 20 juillet, je pars pour quelques jours de randonnée sur le GR10. J'ai pour projet de relier Luz-Saint-Sauveur à Bagnères-des-Luchon, soit 6 jours de marche. Marche en solo, marche en autonomie. Ce n'est pas la première fois. J'ai déjà parcouru, seul ou à plusieurs, quelques portions de ce sentier qui relie l'Atlantique à la Méditerranée, environ 2000 mètres d'altitude en moyenne. Aux yeux des autres, ce projet est un peu étrange. Marcher seul, c'est sûrement ennuyeux. C'est peut-être dangereux. Le faire en autonomie, ça veut dire porter un sac lourd, ne pas pouvoir prévoir ses étapes. En fait, la solitude sera toute relative et permettra aussi de belles rencontres qui n'auraient pas été aussi simples si j'étais parti accompagné. Allez, en route. Luz-Saint-Sauveur, 3h du matin. L'orage gronde, la pluie s'abat sur ma petite tente. Ça promet. Pourtant, dès le matin, cet orage n'est qu'un mauvais souvenir et le ciel est tout bleu. En fait, ce seront les seules gouttes de pluie lors de mon périple. C'est la foule à Luz. Le Tour de France est de passage aujourd'hui. Je trouve une petite rue pour laisser ma voiture. Je charge mon sac à dos. Et c'est parti. Direction Barège. Le début est plutôt difficile.
Bientôt 1 heure de marche. Comme d'habitude, quand on part de la vallée, Luz-Saint-Sauveur est à 720 mètres, je crois. Et la première matinée, c'est toujours terrible. Ça grimpe. Petit sentier, heureusement ombragé, mais dans les nuages. Je pense que ça va se lever dans la journée, mais au moment, c'est bien agréable de ne pas être au soleil.
S'arrêter souvent pour souffler ou avancer coûte que coûte pour maintenir un rythme efficace, à chacun sa méthode. Je suis plutôt un adepte de la seconde. Première pause à 1300 et quelques mètres, donc déjà 600 mètres de montée en un peu plus d'une heure. Donc ça a bien grimpé. En tout cas, ça fait du bien de s'arrêter. Heureusement, pour cette mise en jambe, le relief s'atténue rapidement.
Après les difficultés de la première heure, depuis c'est beaucoup plus facile. Je marche en balcon, parmi les arbres. Petit sentier. Pas de paysage, parce que d'une part les arbres me le cachent, et d'autre part on est toujours plus ou moins dans les nuages. Ça a tendance à se lever, mais c'est pas encore tout à fait le cas. Ce sera bientôt midi là, j'espère que cet après-midi on pourra découvrir un peu le paysage, même si ça risque alors de taper fort. Je retrouve les sentiers en lacets dans le bois pour descendre vers Barèche. Je devrais être d'ici une demi-heure à peu près. Donc là, ça... Depuis une heure, là, ça va très vite en fait. Il n'y a pas de difficulté et ça déroule. Il est un peu plus de midi et demi. C'est l'heure du casse-croûte. Je me suis arrêté dans une prairie qui vient d'être fauchée en fait, pour les foins. Je suis entouré, envahi de papillons, d'insectes, de mouches, de toutes sortes d'insectes. Et c'est très agréable, très joli en tout cas. Voilà. Le soleil a du mal à percer, hein. C'est toujours bouché. Mais on va quand même casser la croûte pour pouvoir juste avant de descendre sur Barèche. Bon, mauvaise pioche, les mouches sont vraiment trop nombreuses. Je m'en vais voir un peu plus loin. En contrebas du chemin, deux vaches, les premières que je vois, deux vaches rousses qui se prélassent, voilà, tranquille. Et on entend leur clarine que je n'avais pas encore entendue. En fait, je prendrai mon repas une fois arrivé au camping de Barèche. L'arrivée à Barèche est des plus violentes. Le Tour de France, avec sa caravane publicitaire, me replonge dans la civilisation à peine après l'avoir quittée une demi-journée.
On avance actuellement pour Élisée-Bert, alors que le groupe...
Je profite de cet événement pour assister à une étape de montagne du Tour, chose que je n'avais jamais faite. Je ne boude pas mon plaisir à encourager les coureurs, s'égrenant un à un ou presque. Avant d'affronter le Tourmalet. Je les reconnais comme mes frères d'effort face à ces pentes qu'il faut vaincre en allant au bout de soi-même, en cherchant ses propres limites. Cette journée inaugurale est aussi l'occasion de ma première rencontre avec une membre d'une confrérie bien identifiée, les Géhardistes. Ruth, une jeune femme espagnole de 38 ans, en est une. C'est-à-dire qu'elle effectue la traversée de part en part des Pyrénées, de l'Atlantique à la Méditerranée, de Hendaye à Banyuls, par le GR10, soit 2 à 3 mois continus de marche. Ce projet m'impressionne beaucoup, et, en discutant avec Ruth, je m'apercevrai que pour elle, ce n'est en fait qu'un hors-d'œuvre.
Oui, c'est un projet que j'ai fait avec mon mari. Mm-hmm. Et maintenant, j'ai fait ça, les GR10. Mon mari, il allait de Barcelone à Sud-Afrique avec un moto. Et quand j'ai fini les GR10, lui, c'est encore sur son voyage. Mm-hmm. Et alors, j'ai pris un autre petit pain. Et j'ai allé au Maroc pour randonner aussi pour les Atlas, comme ça, jusqu'à mon mari il arrive. Et après, nous prenons les voitures, les camping-cars, et nous voyageons pendant 5 années pour le monde.
Le fait de marcher seul ne lui pose pas de problème. La difficulté principale étant plutôt d'ordre organisationnel.
Non, je trouve beaucoup de femmes qui marchent tout seules.
Ouais.
Et je crois que le difficile, c'est, pour moi, c'est la première fois que j'ai fait un randonnée très long. Et les logistiques et tout ça, jusqu'à j'ai trouvé la manière de faire tout ça bien, avec les nourritures, avec les bois. Mais je trouve que c'est très bien parce que la personne qu'il y a sur les GR, il parle bien, il te dit quelque chose, c'est bien pour toi. Généralement, je fais des 18 km comme ça, 6-7 heures. Mais maintenant, j'ai un peu de tendinitis et je vais faire 3-4 jours de 5 heures, 4 heures, comme ça.
Le lendemain, Ruth préférera rester au repos, sa tendinite à la cheville la faisant trop souffrir. Après la courte première étape, la suivante doit m'amener au cœur de la réserve naturelle de Néouviel. À peine quitté Barège, on n'entend plus le bruit de la ville, on entend les torrents. Et là, nouveau paysage, je n'ai pas vu hier. Paysage très ouvert, beaucoup de prairies. Voilà, devant moi, 4 ou 5 marcheurs qui font comme moi. Au bout de quelques minutes de marche, je retrouve un couple de l'est de la France rencontré au camping de Barèges. L'occasion d'une conversation sur les avantages comparés des 3 principaux chemins permettant la traversée des Pyrénées. Le GR10 en France, son équivalent en Espagne, le GR11, et le HRP, haute randonnée pyrénéenne, qui redescend rarement dans les vallées.
Moi, j'ai traversé 3 fois les Pyrénées.
La totale du GR10 en 3...
Non, le GR10, la HRP et le GR11. Enfin, j'ai commencé à 24 ans. Pop. Hein.
Oui, enfin, mais moi aussi, j'ai commencé à... pas en une année.
Non, aucun.
Non.
HRP au GR11, je crois que j'ai fait en 3 fois, peut-être. Non, le pire, c'était le GR10 au début, parce que là, on n'était pas habitué.
Ouais.
Mais après, la HRP, j'en ai fait quelques-uns.
La HRP, c'est pas trop compliqué pour les ravitaillements et tout ça?
Rien du tout. C'est pas compliqué du tout.
Pourquoi? Parce qu'on trouve un refuge.
Vous avez dit... Vous avez de refuge en refuge. À partir du col du Sompon, vous avez un logement tous les soirs. Non, autrement, mais c'est sympa, hein. Vous descendez pas tout le temps dans les vallées. Hein.
Ouais, bah c'est ça, ouais. J'avais peur de, pour le ravitaillement, parce que du coup le sac est lourd.
Par contre, si vous voulez pas manger en refuge, là.
Ouais, c'est ça le problème, ouais. C'est ça, moi j'ai l'habitude de faire en autonomie. C'est compliqué, quoi. Le GR11...
On peut tout faire, mais alors ils sont portés.
Ouais. Le GR11, la fille qui avait la petite tente rouge, là,
oui,
elle voulait le faire, mais elle disait, il est hyper mal balisé. Elle trouvait que...
Ça, c'est vrai.
C'était plus compliqué.
Endroits, ouais. Le 11, il est en difficulté, il y a votre GR10 et la HRP.
D'accord.
Il est plus difficile que le 10.
Ok.
Mais il est plus intense. Si vous faites la totalité du GR10,
oui.
Ils sont pas suivis.
Je pense le début, non, il doit être...
Le Pays Basque.
Ouais.
C'est le Pays Basque, quoi.
Ouais.
Alors on aime, il y a les jolies paysages et tout.
Il y a souvent de la pluie.
Oui, pardon.
Sur le côté droit, il y a la route qui descend du Tourmalet. Et c'est toujours la valse des camping-cars qui descendent suite au Tour de France d'hier soir. Une fois la route traversée, le tumulte s'éloigne enfin. Aujourd'hui, c'est dimanche, et de nombreux randonneurs partent pour une balade à la journée. Rapidement, on sait faire la différence entre ceux-ci et les marcheurs au long cours. L'harnachement n'est pas du tout le même. C'est ainsi que je remarque Stéphane, qui enchaîne les GR les uns après les autres.
Les GR5, c'est sur combien de mois?
Moi, je l'ai fait en 20 jours.
En 20 jours? Waouh!
Là, je suis gazé, je faisais du... des fois, je marchais 12 heures par jour.
Ah ouais!
Avec le sac, celui-là, d'ailleurs, je vais bientôt le porter à la poubelle, parce qu'il commence à
fatiguer.
Ouais. Depuis une minute. Maintenant, je sais pas, 90 000 km. Je commence un peu à lâcher. Ma mère, elle a fait un peu de couture dessus.
Ah ouais?
Ça l'année prochaine parce que. Là, je reviens d'Auvergne, je suis en Auvergne. GR30, GR441, et puis GR4 à la descente qui m'arrive, puis je suis venu. Et là, je repars d'Andaille. Je fais toute la traversée.
Et là, c'est
En autonomie, peut-être, ou en refuge?
Ah ouais, complètement autonomie.
Autonomie, ouais.
Bon, l'année dernière, les Alpes sont en refuge, sans rien. Je dormais sous la neige. Moi, je vais dans les Vosges. Je vais faire de la ronde dans les Vosges, j'ai de la famille là-bas.
Et tu passes ton année à marcher comme ça?
Oui et non. Je suis en une phase un peu délicate. Moi,
il y avait besoin de prendre le large.
Je voyage pas mal, ouais.
Et, ouais, bah ça fait du bien.
J'ai de l'argent de côté, je me suis dit que je ne le fais pas maintenant.
Ouais.
Ça fait un an que je bouge à droite à gauche. J'avais pas un boulot qui m'en retenait forcément. Après.
Après cette belle rencontre, chacun poursuit sa progression à son rythme.
À la recherche de la cabane perdue. En fait, je cherche à joindre, donc, à rejoindre la cabane d'Aigle Cluse où je vais pouvoir pique-niquer. J'avais pensé dormir là, mais comme j'y arrivais ce midi, en fait, je pousserai plus loin cet après-midi. La voilà. Enfin, petite cabane qui, a priori, doit être capable d'héberger 6 personnes. On va aller voir ça. Voilà, donc je quitte la cabane où j'ai pique-niqué auprès d'un super petit lac. Voilà, maintenant je me dirige vers le col de Madamette, qui sera situé un peu plus de 2500 mètres. Ce sera le point culminant d'aujourd'hui. Là je remonte le long d'une rivière souterraine. C'est des gros cailloux. Il faut escalader les uns après les autres. Je viens de croiser un trailer. Ça ne doit pas être facile de descendre dans ce genre d'environnement. Alors bien sûr, je n'en ai pas encore parlé, mais dans cet environnement pierreux, mes yeux sont constamment à la recherche des traits rouges et blancs, des repères du GR, pour être sûr de ne pas rater un changement de direction. Waouh! Au détour du sentier, un lac, lac de Madamette. Et un peu plus loin, un autre lac. C'est superbe. Tranquille, pas un bruit. Donc au premier plan, j'ai ce lac avec ses petites vaguelettes poussées par une petite brise. Au fond, toute une partie dans laquelle il y a des roseaux. Et puis en arrière-plan, le chemin qui continue, qui monte avec des randonneurs. Ils sont plus très loin du col de Madamette. Encore un peu plus d'une demi-heure, quoi. Mais ils voient le bout. Je vais aller les rejoindre. Quelques mètres, quelques pas, et j'arrive au sommet du col. Génial. 2509 mètres. Et super, des étangs, de la neige. On rentre dans le parc du Nouvielle.
C'est pour ce genre de paysage que j'aime la marche en montagne. L'effort de la montée est vite oublié devant la beauté des paysages. Malheureusement, comme c'est souvent le cas en franchissant des cols, le vent est très présent et perturbe ce moment de grâce. Il faut songer à vite redescendre sur l'autre versant.
J'attaque ma première descente digne de ce nom, de ce périple. J'avoue que j'aime pas trop ça. Je sais jamais où poser le pied. Mais bon, faut y aller.
On verra. Direction le lac d'Orédon, où je me poserai pour la nuit.
Je suis donc installé sur terre de bivouac du lac d'Orédon. En fait, il s'agit d'une plateforme herbeuse, ce qui est juste au bord du lac. C'est très agréable. Jusqu'à maintenant, j'étais tout seul. Je crois qu'il y a des gens qui viennent d'arriver. Enfin, ça n'a pas eu de la foule. Voilà, je crois que c'était le bon plan, parce qu'il y a aussi des sanitaires à côté. Il y a des tables. Il y a le torrent pour se laver. Non, il y a tout ce qu'il faut. Donc, je crois que je vais être bien là.
Le repas du soir est chaud, contrairement à celui du midi. L'imagination est rarement une priorité, mais on essaie de faire pour le mieux.
Alors donc, au menu ce soir, il y a eu une excellente soupe aux légumes avec ces petits croutons de pain. Ensuite, nous avons eu de la tomme des Pyrénées, tomme de la du Néouvielle même, que j'ai acheté sur place, une gentille bergère qui a la particularité d'être palestinienne. Et d'autre part, après, comme dessert, j'ai donc eu des abricots secs, excellents. Voilà, comme quoi en rando, on peut très bien manger également.
Dans une rando en autonomie, l'ennemi, c'est surtout le poids du sac, et celui-ci est fortement lié au nécessaire pour les repas, c'est-à-dire la nourriture, le réchaud et la vaisselle. Le ravitaillement est donc un point important, mais n'est pas toujours possible quotidiennement, comme me l'ont rappelé mes compagnons de route rencontrés ce matin.
Un peu dur à cause du ravitaillement.
Ah oui, j'ai pris ce qu'il fallait là pour...
J'aurais peut-être pas eu besoin de prendre de l'eau parce que je pense qu'on va en trouver ici.
Ouais, mais on prévoit toujours.
Ouais, bah voilà.
On sait jamais.
Voilà.
Ouais.
Au mois d'octobre, dans les Alpes, des fois, je passais 400 jours à la personne. Hein.
Ouais.
Je passais dans les patins, tout est fermé. Office fermé, magasin fermé. Des fois, je m'en retrouve en galère de bouffe.
Bah ouais, ouais.
C'est des topos, ils disent le ravitaillement. Ouais, mais un ravitaillement en saison.
En saison.
Hein. En saison, des fois, ils ne mettent pas.
Ouais.
Et bah là, t'es coincé.
Le troisième jour commence par une montée assez raide vers le col d'Estoudou pour rattraper le GR que j'ai laissé la veille pour trouver la zone de bivouac au lac d'Orédon. Plus tard, je rencontrerai Bernard qui me confirmera la difficulté de cette montée.
Je croyais qu'en allant à Orédon, j'allais...
Sur le GR
Non, mais j'allais, ça allait pas être compliqué de le récupérer, quoi.
Que... Si,
en fait, c'était boum.
Oh la vache, bah, moi,
matin,
je Oh la vache. Mais je savais que j'ai déjà fait comme ça. Donc...
Ah ouais, non, moi j'ai été surpris, en fait. J'ai pas lu ma carte et je croyais que j'étais...
Ah ouais, non, mais vaut mieux ce sujet, hein. C'est plus doudou, hein.
Ouais.
Prends cette partie, là, quoi.
Bon.
Quand on aime, on ne compte pas.
Exactement.
Je suis en train de monter le col de l'Estoudou et là j'arrive sur une plateforme rocheuse avec un paysage ouvert magnifique sur toute la une bonne partie de la vallée du Néouvielle. C'est superbe, on voit les crêtes qui se détachent dans le ciel bleu. Il n'y a pratiquement pas un nuage à part des petits moutonneux en altitude. On aperçoit des névés. Voilà, qui ont dû rester à l'ombre un peu plus longtemps que les autres. En fait, le Néouvielle, ça me rappelle les vacances 1976-1977, j'avais une douzaine d'années, je crois. On était venu avec des parents et je l'avais grimpé avec papa et Hervé. On avait dû faire le pic du Néouvielle. 3091 mètres. Et curieusement, ça reste le plus haut sommet que j'ai fait. Parce qu'en fait, je fais pas souvent de pics. Et les GR, les randos que je fais, sont généralement entre 2000 et 3000, mais pas au-delà. Même le Tour de Mont-Blanc, ça doit culminer à 2008 ou quelque chose comme ça. Donc voilà, souvenir.
Bien s'arrêter.
Oui, il y a un sommet, je vous rassure. Bonjour. Petite pause de casse-croûte. Quelques barres de céréales. Je suis tout près du lac de Loul. Super lac, avec un torrent qui se jette devant. Il fait toujours aussi beau, en fait. On croise pas mal de marcheurs qui viennent faire des balades à la journée. Je monte maintenant en direction du col de Portet. C'est étonnant. Comment... En rando, en montagne, un col chasse l'autre. On fait une fixation sur l'objectif à atteindre. Et une fois qu'il est passé, eh ben on a quasiment oublié son nom. Parce que on se concentre sur le suivant. Je passe devant une cabane hébergée et tout à côté il y a 6 panneaux solaires. Voilà, je capte cette énergie gratuite qui aujourd'hui doit être à son maximum. Nouvelle configuration, celle que je préfère. Un sentier en balcon qui surplombe le lac. C'est du lac de Loule. C'est plat, une légèrement descente. C'est superbe, le paysage est très ouvert. On voit les sommets au lointain. Les lacs sont nombreux dans ce parc de Nouvielle. La plupart sont des lacs artificiels. Ils sont tous... terminé par un barrage pour alimenter la vallée en électricité sans doute. En fait, je rencontre pas beaucoup d'animaux. Je pensais entendre des marmottes, par exemple. Et pour le moment, par un cri de marmotte au tout début. Non, pour le moment, je suis pas dans une région, la marmotte. Alors, autour de moi, par contre, il y a plein d'animaux. Il y a d'autres animaux, j'ai du mal à capter leur bruit, c'est les papillons. Le bruit du papillon, si on l'entendait, il serait assourdissant, tellement il y en a. Je passe actuellement sous une ligne de téléski, avec les structures, les bâtiments sur ma droite. Le calme du lieu tranche avec sans doute l'effervescence qu'il doit y avoir au mois de janvier-février. Et j'ai du mal à imaginer ces pentes dans d'autres conditions, comme toutes blanches, avec plein de monde dessus. Vite. C'est pas moi qui le dis. C'est les temps donnés par les pancartes ou par le topo guide qui ne quitte pas, qui semble le prouver. J'arrive toujours bien avant, ou très souvent en tout cas bien avant, les temps impartis. Autre indice, je dépasse du monde. Et l'inverse se produit rarement. Alors, est-ce bien ? J'ai pas l'impression de forcer. C'est un rythme que j'ai depuis très longtemps. Ce rythme est sans doute même plus lent qu'il n'a été. Alors partout, sur les sites internet, Gibson, on rappelle qu'il faut marcher lentement, pas après pas. En fait, je crois que ça dépend vraiment de chacun. Alors évidemment, quand on est tout seul, eh bien on gère son pas. Il n'y a pas de temps d'attente. Et c'est pas toujours facile à gérer d'ailleurs. Soit on reste avec la personne accompagnée en étant plus lent, en mettant son pas dans le sien, en restant derrière. Ou soit on part devant et régulièrement, tous les quarts d'heure, tous les demi-heures, on attend. Alors c'est obligatoire quand on est en groupe, mais il faut reconnaître que c'est frustrant également. Et que c'est sans doute pour ça aussi que j'apprécie de marcher tout seul.
Ce besoin de marcher seul me sera souvent expliqué par les GRDistes rencontrés qui, s'ils apprécient se retrouver de temps en temps à l'étape, ont l'habitude néanmoins de garder leur rythme personnel qui varie en fonction de la vitesse de marche, mais aussi des horaires de démarrage, ainsi que de la longueur des étapes. Bernard, que je retrouve bientôt, me le confirme.
Ah ben, vous avez vu une copine, alors.
Qui était à camper là aussi ?
Oui, Isabelle, là. Ouais. J'ai appris ce matin, là, par un... On est un petit groupe qu'on suit depuis Andaï. Ça se voit de temps en temps.
Ouais,
et je sais, j'ai appris par Tal, un Israélien, là, que j'ai vu tout à l'heure. Il savait qu'Isabelle avait couché au bivouac.
D'accord.
Bon, je vais laisser descendre dans votre
aide. Ouais, bah peut-être,
peut-être
en bas, voilà. Si jamais, ou demain.
On sait pas.
Ouais, allez, bonne continuation.
Depuis le col du Portet, qui était 2002, donc je descends pour rejoindre Vielor, qui doit se trouver à 800 mètres, je crois. Donc ça descend bien. À ma droite, on voit la ville de Saint-Lary-Soulan. Et puis, juste au-dessus, sa station de ski, le Plat d'Adet. Aussi au lieu de l'arrivée Tour de France. Donc on sent qu'on revient avec... on va retrouver du monde, puisque la ville est toute proche. Je ne suis pas arrivé, mais... Je vois le toit de maison tout en contrebas, sachant que Vielor est un peu au-dessus de Saint-Lary.
Le paramètre météorologique est évidemment un élément important dans ce genre d'aventure. En ce qui me concerne, je n'aurai pas à sortir une seule fois ma cape de pluie du sac à dos. Par contre, la chaleur aura une incidence certaine sur le rythme de la marche et sur l'amplitude de la journée de randonnée.
Incroyable. Un virage à gauche. Je m'engage dans un sentier entièrement ombragé avec des feuilles noisetiers. Hyper agréable. Ça faisait des heures que je marchais sur le canard. Ça fait du bien.
Après une longue descente...
Mais qu'est-ce que c'est long ? Qu'est-ce que c'est long ? Ça n'en finit pas.
j'arrive enfin à Vielor, ou plus exactement au camping de Bourisp.
Bonjour. Bonjour. Je cherchais un endroit pour aller m'attendre cette nuit.
Ah.
Un petit coin, tout petit.
Ouais, je vais te mettre avec, parce qu'il m'en reste, mais ils sont au soleil encore. Donc ouais. J'ai mis une dame sur un emplacement qui est à l'ombre. Ouais. Elle est toute seule. Ouais.
Prendre un camping de temps en temps permet de profiter d'une bonne douche et d'un minimum de confort. J'y ferai la rencontre d'Elisabeth, géardiste solitaire. Solitaire ou presque, puisqu'elle traverse les Pyrénées avec Plume, sa chienne. Cela n'est pas sans compliquer la rando, puisque certaines zones, comme la réserve naturelle du Néouviel, sont interdites aux chiens. De plus, un coup de laisse trop brusque lui occasionnera une blessure à la main nécessitant la pose d'une attelle à l'hôpital de Lourdes. Pas pratique, surtout lorsque l'on marche avec des bâtons. Le lendemain, direction Germes, village situé au-dessus de Loudenviel. Quand je démarre, un peu avant 9h, Elisabeth est sur les chemins depuis déjà 3 heures de temps, à chacun son rythme. Au bout de quelques dizaines de minutes, je retrouve Tal, un jeune Israélien que j'ai déjà croisé une fois ou deux. Plusieurs fois, je le trouverai avachi, près du chemin, semblant à l'agonie, ou alors faisant une pause cigarette à la bouche. Malgré tout, il avance. Comme Tal, le GR10 attire des marcheurs d'un peu partout. Ainsi, j'ai fait un bout de chemin avec un couple écossais, un Australien, un Allemand, un Hollandais, 2 Espagnols, un Canadien, tous ou presque relevant le défi de faire la traversée complète des Pyrénées. Après un pique-nique à Loudenviel, la montée vers Germes n'est pas de tout repos. Et je ne peux m'empêcher de m'invectiver pour me donner quelques courage supplémentaires.
Je crois. Allez. Presque.
L'arrivée au centre de montagne est une bénédiction. Ce lieu d'accueil, ce refuge très sympathique, aménagé avec beaucoup de goût, met également à disposition une aire de bivouac. Je retrouve Elisabeth, ainsi que Ruth, et un ami espagnol, Joseba, qui viennent d'arriver en stop. Bernard, lui, arrivera un peu après et préférera prendre une chambre au gîte. Un peu plus tard, il me confiera ses sentiments par rapport à son projet de traverser des Pyrénées.
Pour moi, c'est toujours été un rêve de gamin. J'ai vu des gens quand j'étais ado qui faisaient du GR10. Et ça m'a donné envie de le faire et... Il y a des années que j'ai commencé à compter par une temps, comme je t'expliquais, pour pouvoir le faire. Et donc il y a des années que j'en ai fait.
Il y a une dizaine d'années peut-être bien que
15 ans.
15 ans que tu y penses.
Que j'y pense.
Ah, oui.
Puis là, je commence à avoir mal aux genoux, donc je me dis, c'est vraiment maintenant. Vraiment, il faut y aller. Ouais. Quoi. En plus, bon. Et nonobstant, quand j'ai présenté ça, à tout le monde, ça posait pas trop de problèmes. C'est ma femme qui, juste avant de partir, m'a dit, mais vraiment, pourquoi tu fais ça? C'est vraiment poser des questions sur est-ce que c'est une forme de rupture dans le coup, parce que c'est pas, je sais pas si c'est si simple que ça dans ma tête, je pense à ça. Donc, on verra au bout. Je sens que j'en avais vraiment besoin parce que j'étais dans une période un petit peu dépressive. J'ai ma fille qui a perdu son petit bébé 5 jours avant la naissance, son deuxième, et bon, on l'a soutenu comme des parents peuvent le faire, mais moi, ça m'a fait des séquelles énormes et je sentais que j'avais besoin d'évacuer tout ça, quoi. Et le fait de me retrouver, de me ressourcer un petit peu personnellement et tout, ben, je sens que ça me fait énormément de bien. Le fait de la marche, si tu veux, je ressens un petit peu tous les bienfaits antidépressifs de la marche. C'est affolant le bienfait que ça peut apporter. Simplement parce que tu fais un effort régulier, et puis tu vois des choses merveilleuses, et puis tu te dis, attends, arrête de tourner sur toi-même et puis regarde un peu autour de toi. Et puis en même temps, c'est vrai qu'avec les rencontres que je fais, t'as des gens qui ont des discussions, si tu veux. Je parlais justement avec un couple comme ça, et on parlait entre autres. Moi, j'ai raconté l'histoire du petit bébé qui était décédé, et je voyais que ça faisait vraiment écho chez eux. Enfin, et ce couple-là m'a dit au bout d'un moment, tu sais, chacun pour sa croix. Je comprends, c'est vrai que effectivement chacun porte sa croix et puis tout le monde a ses casseroles et puis elles sont pas forcément faciles à passer et puis bon, faut le temps et puis on dit oui, effectivement, faut beaucoup de temps. Et puis au bout d'un moment, ben, Marie, la femme me dit, tu sais, nous on a 5 petits enfants et il y en a un qui a une mucoviscidose. Et donc tu dis Marie, ça explique plein de choses, quoi, parce que le mari était d'une gentillesse ici, mais vraiment d'une douceur. Enfin, le mec, il a compris tout ce que c'est que la vie, toute la richesse, quoi. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose de fait. C'est important, mais enfin, ça aide des rencontres comme ça. Moi, je suis parti le jour de mes 60 ans. J'ai voulu marquer le coup. Quand je partais cet été, c'était mon anniversaire, c'était le 26 juin. Donc, j'ai dit, je pars le jour de mon anniversaire. Ça marque un coup. Puis en même temps, ben, c'est aussi une nouvelle étape, parce que je vais vers la retraite, je vais à une nouvelle vie. Donc, bon, allez, on marque le coup, quoi. Voilà. Oui, ça doit être symbolique quelque part, mais je n'ai pas encore trouvé la raison.
Je voyais que tu avais des problèmes de genoux, de chez
l'arthrose. Je savais que ça serait dur, mais ça fait partie du jeu. Puis il y a aussi, tu sais, de toute façon, des choses comme l'arthrose, des choses comme ça, de toute façon, tu n'as pas le choix. Maintenant, il faudrait que tu vises avec. Donc bon, j'ai un copain qui est vraiment handicapé physique par rapport à ce qu'il a.
Oui, c'est rien.
La vie est belle. Hein. Encore avoir de l'arthrose, c'est pas mal. C'est pour ça qu'il faut étudier. Mais c'est vrai qu'il faut aussi apprendre à respecter son corps dans le sens où faut pas forcément aller plus vite qu'on peut. Et puis, c'est pour ça, bon, les gens passent devant, ils passent devant, quoi. C'est pas un souci. Chacun son rythme, et puis il faut l'accepter. Quoi.
Même les gens, comme tu disais, qui se retrouvent régulièrement, vous marchez pas forcément ensemble.
Non, c'est pas le but, non. C'est aussi, son cheminement intérieur. Quoi. D'ailleurs, son chemin, c'est le cheminement intérieur. C'est ce qui compte le plus. Quoi.
La soirée se passera autour d'un verre et de tapas au restaurant chez Lily, annexe du centre de montagne. L'ambiance musicale sera propice aux échanges et Joséba me livrera sa boulimie de marche sur ces deux dernières années.
Alors, je m'appelle Joséba et je viens du Pays Basque et j'aime très bien marcher. J'ai fait le GR10 cette année parce que je vais apprendre un peu le français. Mais généralement, j'aime très bien marcher parce que ça me permet de rien penser. Je marche et je fais la méditation un peu. Ça veut dire marcher et laisser les jambes se bouger un, l'autre, l'autre et rien penser. Et ça m'aide à être mieux avec moi-même, et soit pour la partie physique, soit pour la partie mentale. Et j'aime très bien marcher depuis 10 ans, plus ou moins. J'ai fait le GR10, j'ai marché beaucoup en Népal l'année dernière. L'année dernière aussi, j'ai marché depuis Rome en Italie jusqu'à chez moi. J'ai monté jusqu'à Genève et après j'ai descendu pour le chemin du Compostelle qui arrive à Saint-Jean-Pied-des-Ports. Et après, depuis Saint-Jean-Pied-des-Ports, chez moi, c'est le chemin du Nord.
Et c'est
Camino du Nord, oui. Et là-bas, je me suis arrêté. Et c'était de Rome à Rome. Parce que chez moi, c'est Rome. Alors, de Rome. C'était là-bas, je me suis arrêté.
cinquième jour après une super soirée hier soir chez Lily au centre de montagne de Germes. Donc là, l'objectif aujourd'hui, c'est de rejoindre le lac de Haut. Ce journée assez longue, d'autant plus qu'il va encore faire très chaud. Je viens de finir de grimper le pas de Couret. Très très dur. Très dur. Petite récompense en chemin. J'ai pu trouver les premières myrtilles pour rafraîchir un petit peu. Voilà, maintenant je suis en haut. Paysage superbe en face. Mais il va falloir redescendre. On est actuellement à 2100. Et il y a 1000 mètres de dénivelé là. On redescend à 1100. Alors que ça descend avec un fort pourcentage. Je me rends compte que mes bons jours joviaux aux randonneurs que je croise et qui eux montent dans l'autre sens doivent paraître bien déplacés pour eux qui sortent difficilement un bonjour sans desserrer les dents, tellement la pente est dure et qu'ils sont tout concentrés sur l'effort à fournir. On dit que les Inuits ont plus d'une dizaine de mots pour désigner la neige ou la glace. En lisant mon topo guide, je me rends compte que ce qui est pour moi un chemin ou un sentier peut être nommé par de nombreux autres termes. Une sente.
Petit chemin, sentier.
Une draille.
Piste empruntée par les troupeaux transhumants.
Une piste.
Chemin de terre tracé par le passage répété des hommes à pied.
Une trace.
Vestige qu'un homme ou un animal laisse à l'endroit où il a passé.
Une coursière.
Sentier coupant à travers champs.
On vieillit. Ça se voit à pas grand chose. Mais des petits signes. Là, je suis en train de monter au lac de Haut. Et cette grimpette, j'ai déjà faite il y a 42 ans, je crois. À l'époque, les frangins et moi, on essayait de couper tous les lacets. Parce que des lacets, il y en a partout. Et on rattrapait comme ça les parents. Et je me dis que maintenant, j'en sais fichtrement incapable. Et que je suis bien content de suivre le chemin le plus long. Si l'objectif était le lac de Haut, la configuration des lieux et l'heure encore peu avancée dans l'après-midi me pousseront à grimper plus haut, vers le lac d'Espingo. L'étape du jour s'est terminée au refuge d'Espingo. En fait, donc là, je campe, vous imaginez une grande bâtisse qui est sur le roc, hein, voilà. Et en contrebas, un merveilleux lac, le lac d'Espingo. Des torrents qui se jettent dedans. Et des chevaux qui se baladent en liberté là-dedans. C'est superbe. Donc, tous les soirs, il y a le rituel de la lessive, puisque les randonneurs généralement n'emportent que deux tenues. Donc, tous les soirs, il faut laver la tenue du jour pour la remettre le surlendemain. Si on est dans un camping, c'est assez pratique. Si on est dans la nature, c'est dans le torrent. Et c'est ce que je fais ce soir. Donc, dernière lessive, puisque dernière étape demain. Donc c'est parti pour la dernière étape. Un peu de vent ce matin. La nuit s'est bien passée, même si elle a été un peu perturbée au début par les chevaux qui sont venus tourner autour de nos tentes et faire même que certains se sont obligés de déménager. Donc voilà, donc là je repars vers Bannière de Luchon. Au début ça va être tout en montée, mais une fois le premier col trouvé, après ce sera plus que de la descente pratiquement. En fait, la descente vers Super Bannière est un peu plus longue que prévu. Je descends vers la station de Super Bannière. En fait, il s'agit d'un nouveau sentier créé il y a quelques années, a priori, suite à des chutes de personnes sur l'ancien sentier qui était en bordure de montagne. Et apparemment, il y a eu plusieurs décès. Donc là, ils ont fait entièrement revu leur copie. Ils ont refait complètement le sentier sur un autre versant. Bon, ça rallonge peut-être un petit peu, mais on est plus en sécurité. Donc là, je descends de Super Bannière vers Bannière de Luchon. À peu près, je sais plus, 1000 mètres, je crois, 1000 mètres, au moins 1000 mètres de dénivelé. Une bonne partie des collègues, la randonneur, mais qui font le GR10 en entier, je crois qu'ils vont ils vont prendre le télésiège, je crois, pour chanter la descente. Dans cette dernière descente de mon périple, me reviennent en mémoire les magnifiques paysages rencontrés durant ces 6 jours. Mais ce sont aussi et surtout les rencontres de ces GRDistes, chacun porteur d'une histoire de marche, chacun porteur de sa propre histoire. Ce pas de côté qu'ils ont osé faire, ce côté original de la démarche me revient à l'esprit à travers cette anecdote rapportée par Elisabeth.
J'ai dormi dans le plus haut refuge du GR10, le refuge de Veslance. Et au moment où j'arrivais, je me suis posée, j'ai vu le manche d'une contrebasse qui arrivait dans la montée, là, qui dépassait, puis après un gars en dessous. Et en fait, c'est un groupe de 3 jeunes, très jeunes, un peu tarés, qui vont de refuge en refuge avec leurs instruments sur le dos. Ils ont prévu comme ça une boucle d'une dizaine de jours. Et voilà, il y avait un saxophone, une contrebasse et puis une guitare. Et en fait, ils ont donné un concert après le soir en extérieur parce que le refuge était plein. Et c'était super sympa, c'était après le repas, il faisait froid. Ils avaient leurs chaussures de rando, ils avaient leurs grosses doudounes. Le public aussi avait mis tous les vêtements les plus chauds qu'ils pouvaient. Et tout ça sur fond de brèche de Roland. C'était un moment magique. Voilà. Et à un moment, il y en a quelques-uns qui se sont mis à danser avec leurs surpantalons en Gore-Tex et puis leurs doudounes, leurs gants et leurs bonnets. C'était très drôle.
Ça y est, je suis dans le bus, direction Luz-Saint-Sauveur, pour récupérer ma voiture et rentrer demain en Bretagne.
Merci à tous mes compagnons de chemin pour leur participation volontaire ou involontaire. Merci à Ruth, Joseba, Bernard, Elisabeth pour leur témoignage.
I hate the summer 'cause of you.